Henri de Régnier, la robe. Il y a quelques années, nous étions quelques camarades qui, à force de nous rencontrer chez les mêmes antiquaires et chez les mêmes libraires, avions pris l'habitude de nous retrouver tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, à l'heure du thé ou du porto, pour y causer de choses qui nous était cher et qui ne ressemblait pas beaucoup, j'en ai peur, aux préoccupations familières de nos contemporains. Tous étions des gens fort sages, assez détachés des passions de ce bas monde, curieux de tout et surtout de littérature et de bibelots. Tel était M. Orbacquin, qui vivait au milieu d'une admirable et féerique collection de vieilles dentelles, et qui, avec sa redingote longue aux vasques voltigeantes et ses lunettes vertes, avait l'air de ces grosses libellules, le regard myope qui tournoie au-dessus des bassins d'eau stagnante. Tel aussi M. Morand de Sancy, qui avait vécu longtemps en Russie pour y étudier l'influence française du XVIIIe siècle. Quant à M. de Clairette, il n'aimait que l'art chinois et l'art japonais, et il avait assez l'aspect de quelques bouddhas sereins et radieux. Outre ces personnages, notre petit groupe comptait encore quelques personnes maniaque, fanatique de culture et de passé, perdu dans leurs rêves archaïques ou exotiques, dont plusieurs qui savaient tout de l'univers et n'avaient jamais quitté leur appartement du quai Voltaire ou leur logis de la rue de Verneuil. Par son caractère même, la société que nous formions était fort peu accueillante. Il fallait, pour s'y introduire, montrer patte blanche, ou plutôt patte grise, de la poussière des livres, des choses et des siècles. Nous y discourions interminablement de nos manies réciproques, et si l'un de nous paraissait quelque peu ennuyeux, les autres s'en consolaient en songeant qu'ils l'étaient peut-être à leur tour. Ce juste sentiment entretenait parmi nous une harmonie que nous étions fort attachés à ne point se laisser troubler. C'est ce qui fit que beaucoup de nous n'acceptèrent qu'à la longue, et non sans faire la grimace, le nouvel adepte dont je vais parler, et qui fut tout d'abord considéré comme un intrus. Nous le rencontrâmes longtemps chez les antiquaires que nous fréquentions, sans vouloir l'accepter, l'adopter. Mais il mit tant d'obstination à vouloir être des nôtres, tant de résignation à recevoir nos rebuffades et à supporter nos dédains, qu'il finit, à force de soumission, par venir à bout de nos sociétés entêtées. Oh, ce n'était pas que ce bon monsieur de Courbarois était un méchant homme, mais c'était un homme assez commun, très ignorant, lourd en tout. Comment l'amour de l'art, et de l'art le plus fin, le plus délicat, avait-il pu se loger dans cette étroite, épaisse cervelle? M. Courbarois, en effet, jusqu'à l'âge de 50 ans, s'était contenté d'explorer les moulins créés par son père. Il était très riche, excessivement riche. Je ne sais pas si sa colossale fortune ne fut point pour quelque chose dans l'obstination de certains d'entre nous à le désigner, à l'éloigner de notre cercle. Il ne voyait pas sans quelque mauvaise humeur M. Courbarot en état de se passer de toutes ses fantaisies, alors que eux-mêmes devaient renoncer à tant de merveilles inaccessibles à leur bourse modeste. M. Courbarot avait commencé son apprentissage de collectionneur par le gothique et encombré son hôtel de l'avenue Montaigne de coffres sculptés, de salles d'église, de ferronneries grimaçantes et de Christ déchiqueté. Puis, tout d'un coup, obéissant au goût général, il s'était passionné pour le XVIIIe siècle avec plus d'enthousiasme que de discernement. « Courbarot !» lui dit un jour en riant M. de Sancy, qui avait la plaisanterie terrible. « Savez-vous qu'il y eut un Courbarot terroriste à Lyon ? Oh, j'ignore si ce gredin fut votre ancêtre, mais il a contribué diablement à démolir ce monde qui vous attire tant aujourd'hui. À votre place, je me méfierais. Oh, le XVIIIe siècle vous jouera un mauvais tour, Courbarot. » À ces propos, M. Courbarot avait souri avec un doux scepticisme. Puis, après avoir entassé mobilier, buste, tableau, tapisserie, il se mit à acheter des robes. Il plaça les plus belles sur des mannequins et en orna une longue galerie. Oh, ça ne manquait pas d'un certain pittoresque, ni surtout d'un certain fantastique. Ces robes charmantes et fanées, qui semblaient attendre mélancoliquement, en leur grâce périssante, la visite des ombres qui les avaient portées. Et quand le soir tombait, quand les lampes électriques donnaient un semblant d'existence à ces femmes forts fantômes décapités, il fallait être un solide et paisible M. Courbarot pour ne pas ressentir quelque appréhension à se trouver en cette étrange et fascinante compagnie. Mais M. Courbarot était tout à sa manie et continuait à battre les antiquaires à la recherche de ses objets préférés. Nous le vîmes particulièrement joyeux. Il avait découvert, chez un brocanteur de Versailles, une admirable robe Louis XVI à petits bouquets et un délicieux mantelet de couleur brune. Pendant plusieurs semaines, M. Courbarot ne cessa de parler de sa trouvaille. Cette robe lui paraissait plus belle que toutes les autres. Et il la montrait avec orgueil et prédilection. M. de Sancy fut à son tour invité à admirer la merveille. M. de Sancy, en la considérant, eut un mauvais sourire. « Oh, je la connais, cette robe, mon cher Courbarot, et je puis même vous dire d'où elle vient. Elle a été vendue à la mort du comte de X. Oh, c'était un souvenir de famille, dont, malgré sa misère, il n'avait jamais voulu se séparer. Elle a appartenu à son arrière-grand-mère, la marquise de L, qui fut guillotinée à Lyon. Elle pourrait bien l'avoir été, ma foi, par les soins du Courbarot. Courbarot, mon ami, prenez bien soin de vous, mais vous allez trop loin. Monsieur de Sancy se retira en ricanant, ravi d'avoir cette fois inquiété pour de bon le gros Courbarot qu'il détestait. En effet, à partir de ce jour-là, M. Courbarot devint moins gai, moins satisfait de soi-même, de ses bustes, de ses tapisseries, de ses tableaux, de ses robes. Gros et gras, il ne maigrissait pas, mais sa graisse jaunit. Il se plaignit à différentes reprises de bruits anormaux dans son hôtel. Il changea de domestique et il parla de déménager. Déménager, déménager, lui dit M. de Sancy. Oh, le bon remède! Mais vendez tout, Courbarot, et vivez comme un honnête homme qui ne possède que ce qu'il a le droit de posséder. J'habitais alors, avenue Montaigne, un modeste appartement non loin du somptueux hôtel de M. Courbarot. Un matin, on vint me prévenir que le valet de chambre de M. Courbarot demandait à me parler. Donné ordre de l'introduire, il avait l'air accablé, mystérieux. Pendant la nuit, il avait entendu un grand cri, et à l'heure habituelle, M. Courbarot n'avait pas paru, il n'avait pas sonné. En vain, le brave garçon avait frappé à la porte, on ne lui avait pas répondu. Alors, prévoyant un malheur et avant de se faire enfoncer la porte, toujours fermée à clef, il avait tenu à me demander conseil. Devait-il faire appeler la police? Le plus simple me parut de me rendre moi-même tout d'abord chez M. Courbarot. Je m'habillai donc à la hâte et je suivis le valet de chambre. L'appartement de M. Courbarot était situé au second étage de l'hôtel. Arrivé devant la porte de la chambre, nous frappâmes à coups redoublés. Aucune réponse ne nous parvint. Il était évident qu'il s'était produit quelque chose d'insolite. Peut-être M. le Courbarot était-il sorti de grand matin, avant le réveil des domestiques. Pour le valet de chambre hocha la tête. Alors, mon brave, il ne reste plus qu'à enfoncer cette porte. Et je pesais de l'épaule sur le battant. Le valet de chambre me secondait de son mieux. Oh, la porte résista assez longtemps. Et tout à coup, grâce à notre poussée, elle céda. Du seuil, j'appelais à haute voix: Courbarot! Tout demeura noir et silencieux. Une odeur étrange, indéfinissable, vint aux mêmes narines. La chambre de M. Courbarot sentait la poussière et la pourriture. Il s'en exhalait un relent qui tenait du bric-à-brac et du charnier. Sans avancer et en tâtonnant, je cherchais le bouton de l'électricité. Soudain, les lampes s'éclairèrent en même temps que je reculais, terrifié. Sur le tapis, presque à mes pieds, Monsieur de Courbaraud gisait sur le dos, la face violette et les yeux hors de la tête, étranglé ou mort de peur. Ses traits étaient contractés et tuméfiés. Sa bouche grande ouverte semblait encore crier d'horreur. Je m'étais penché sur M. Courbaraud, qui était mort. Et sa main crispée tenait encore un morceau d'une soie à bouquet qui semblait, parfois, à quelque. Ressemblait à quelque robe d'autrefois. À ce moment, une intuition rapide me traversa l'esprit. Je me relevai d'un bond, je descendis l'escalier et je courus dans la galerie. D'un coup d'œil, j'inspectais les mannequins debout et leurs atours étranges, surannés. Ils étaient tous à leur place, à l'exception d'un seul qui, renversé et dépouillé de sa défroque, montrait sa carcasse lamentable. C'était celui qui avait supporté la robe à petits bouquets de la marquise de L, celle-là même dont un morceau déchiré demeurait encore là-haut dans la main de Monsieur Courbaraud, qu'il avait agrippé au moment où l'impitoyable victime du Courbaraud terroriste était venue rechercher dans l'hôtel de son descendant la robe qu'il détenait indûment et dont son argent l'avait rendu possesseur sacrilège. Comme nous sortions du cimetière, nous avions accompagné la dépouille de Courbaraud. Monsieur Sancy me prit le bras et me dit, avec son mauvais sourire en coin, « Eh bien, mon cher, avais-je tort de prédire à Courbaraud que son outrecuidance ne lui jouerait qu'un mauvais tour? » D'ailleurs, c'était un sot et une pauvre tête. Néanmoins, je vais faire dire une messe pour le repos de l'âme de la marquise de L. Je n'aime pas que les fantômes se mêlent de nous faire la leçon à nous les vivants. On en finirait plein, n'est-ce pas? Presque tout dans ce monde n'est que Courbaraud. Et celui-là a payé pour les autres. Et M. de Sancy me quitta en ricanant.